La série que vous regardez retrace l'histoire de la vie de l'une des personnalités iraniennes les plus influentes dans l'histoire contemporaine. Il se rendit au Liban, terre de ses ancêtres, pour y semer le germe de l'éveil islamique. L'imam Moussa Sadr, appartenant à la lignée du prophète de l'islam et aux familles des grands dignitaires religieux d'antan, fut enlevé en pleine révolution islamique d'Iran par le régime de Kadhafi. L'ancien régime libyen s'imaginait pouvoir mater ce combat libérateur. Mais lui et les enfants de l'école de l'imam Khomeini au Liban ne seulement créent un nouvel ordre, mais encore mirent à genoux l'armée de l'un des régimes les plus arrogants dans le monde, faisant ainsi la fierté du monde de l'islam.
Signe de bravoure. On pourrait sans doute nommer Henry Kissinger comme l'un des théoriciens politiques et stratégiques les plus importants des États-Unis au XXe siècle. Un stratège tout à fait unique dans la politique étrangère américaine. En tant qu'un ministre sioniste, il marqua profondément l'histoire des États-Unis. Kissinger était l'une des premières personnalités politiques des États-Unis à considérer la région du Moyen-Orient comme l'axe de la politique mondiale. Et c'est justement à partir de cette région et la Palestine occupée que se formèrent les politiques bellicistes et les alliances funestes des États-Unis. C'est dans cette partie du monde que la clé d'innombrables problèmes a été perdue et que les États-Unis ont jeté les bases de la politique la plus importante, à savoir la subordination de toute relation et amitié dans le monde à la sauvegarde du régime occupant de la Palestine. Mais l'axialité de la Palestine se répand vers les autres pays voisins. Et le Liban, pays qui a des frontières communes avec la Palestine, est considéré comme l'une des victimes de la politique étrangère des États-Unis. Rares étaient au départ ceux qui pouvaient comprendre l'axialité du Liban et de son lien avec la Palestine. Kissinger le comprenait pourtant très bien. Pour assurer la sécurité d'Israël, il découvrait le meilleur moyen au Liban. Il trouva donc le Liban comme une place privilégiée pour y transposer la crise de la Palestine occupée. Un pays à la place de la Palestine, une guerre au lieu d'Israël et une terre qui devait apporter la paix pour les sionistes. Ainsi, le Liban était considéré comme un phénomène historique et géographique inhabituel. Le Liban était considéré comme un pays où il n'existerait aucune justification pour l'homogénéité de sa population et qu'on pourrait choisir comme le foyer des crises. Comme le décrivait toujours Kissinger, le Liban était un terrain favori pour les aventurismes politiques. Au début des années 1970, le Liban était un bon pays sans grande complexité. Dans un tel contexte, l'imam Moussa Sadr fit entrer une terminologie particulière comme le terme des déshérités dans la culture politique libanaise, ce qui était sans précédent. Mais un autre terme qui suscita l'attention était celui de la société de guerre. Cela signifie que le Liban, en raison de ses frontières communes avec la Palestine occupée, devrait être toujours dans l'état d'une société de guerre. Alors que la communauté du Sud appelait à soutenir la résistance des Palestiniens, elle déclara ses revendications de façon suivante. Ligne frontalière précise, entraînement des forces au sud du Liban, l'amélioration de la situation économique, armement de l'armée libanaise.
Une personne nommée Sayed Hossein donnait suite à un communiqué qui comprenait un aperçu des revendications mises en avant par l'imam Moussa Sadr et qui devait être discuté au sein du gouvernement et de l'armée libanaise. Selon ce communiqué, tous les villages du sud du Liban devaient être armés, c'est-à-dire que tout agriculteur qui est monté sur son tracteur devait être armé et avoir reçu une formation militaire. Ainsi, il devait, en cas d'éventuel danger, se transformer en un bataillon de guerre et agir sous la supervision de l'armée libanaise.
En juin 1968, les villages du sud du Liban furent l'objet d'attaques d'envergure d'Israël. Le 12 mai 1970, les forces israéliennes firent irruption dans certains villages du sud et commirent des crimes horribles qui conduisirent à l'exode une grande partie de la population. Dans de telles conditions, l'imam Moussa Sadr lança une violente diatribe contre le gouvernement libanais et lui reprocha de ne pas regarder le Liban comme une société de guerre. L'imam Moussa Sadr débuta son mouvement en appelant la population à la protestation et dans un communiqué émis à cette occasion, avertit que les maisons inoccupées des immigrants et des réfugiés ne devaient pas être l'objet d'agressions des sionistes. Car selon lui, l'occupation du sud du Liban serait une prélude à l'occupation du Liban tout entier. Et c'était là le comble du désastre. Un tel communiqué ne manqua pas de susciter une vive polémique dans les milieux libanais qui cherchaient à réprimer le mouvement politique de l'imam Moussa Sadr, celui qui venait de débattre avec le gouvernement dans un climat calme des problèmes comme le partage équitable des richesses.
L'appel de ce grand dignitaire religieux était en fait un appel étrange et inattendu. Car dans les conditions de l'époque, personne ne s'exprimait sur un tel ton et avec une telle logique. Les réfugiés qui auparavant vivaient au sud du Liban, où voulaient-ils alors se réfugier? À Beyrouth, les gens vivaient dans le confort et dans les maisons de luxe et les sans-abri dans les rues. C'est pourquoi l'imam Sadr insistait pour que le gouvernement mette les appartements inoccupés à la disposition de ces sans-abri qui résistent sur la première de la résistance face à Israël. Il expliqua qu'il ne voulait pas que le gouvernement expulse les gens de leurs maisons et de leurs châteaux, mais loger les sans-abri dans les maisons provisoirement inhabitées, ce qui entrait dans le seul champ d'intervention du gouvernement. Ces jours-là, il prononçait une célèbre phrase « Je n'éprouve aucune fierté dans la haute assemblée islamique chiite, haïk et dans la chambre où je suis installé, alors que la population musulmane vit dans la rue. »
L'appel de l'imam Moussa Sadr à une grève générale eut un large écho parmi la population libanaise. Il y eut également de larges répercussions dans les médias. Les visions et les discussions se tournèrent alors vers ce nouveau leader. Un tel leadership était sans précédent au Liban, à la fois du point de vue de responsabilité et de vision. Au Liban, le secret de la suprématie des religieux chiites était difficilement pris en compte. Mais l'imam Moussa Sadr avait ce don, notamment parmi ses adeptes, c'est-à-dire les chiites. Or, aucune autorité politique ou gouvernementale ne le possédait pas. L'imam Moussa Sadr était un leader spirituel ayant une connaissance profonde de son temps, surtout dans un pays comme le Liban, qui n'avait jamais connu une telle expérience. Il était en fait fort d'un passé révolutionnaire qu'il héritait de ses aïeux depuis sa jeunesse, où il avait décidé de s'engager sur la scène du combat.
Je me rappelle, l'imam Moussa Sadr prononça un discours sur le balcon de son bureau dans la ville de Hazemiyye. Les gens l'écoutaient attentivement. Entre-temps, une pensée me vint à l'esprit, qui était inspirée des propos de l'imam Moussa. Je retournai dans le bureau. Je me recueillis et j'écrissais un plan pour la fondation de l'Assemblée du Sud, un organe qui devait œuvrer pour répondre aux besoins de l'ensemble du sud du pays et assurer la paix et le calme pour les enfants de cette région, ni moins ni plus. Pour commencer, il fallait consacrer une somme. Quand l'imam Moussa Sadr retourne du balcon vers le bureau, les députés chiites du Parlement y étaient également présents. Je m'installai sur la chaise d'à côté de l'imam Moussa et lui fis ma proposition. Il l'accueillit chaleureusement et dit qu'il pensait à l'étape suivante de mon projet.
L'été 1970 se présentait comme une occasion pour préparer les prochaines élections présidentielles. Le mandat du président Charles Hélo était fini et les forces d'opposition menées par Raymond Hédé, Camille Chamoun, Pierre Djumaïel, Saïd Islam et Kamel Assad cherchaient à renverser le règne de 12 ans de Sahabi. Ils réussirent alors à vaincre le candidat, c'est-à-dire Alia Sarkis, avec seulement un vote, pour élire finalement Soleiman Frangieh. À peine quelques mois après le début du nouveau mandat, une série d'opérations de nettoyage éclatèrent entre les officiers et les cadres de l'armée, dont le principal objectif était d'éliminer les officiers Sahabi au sein de l'armée libanaise. Cette mesure eut un très mauvais effet sur le moral de l'armée et le fonctionnement des services de renseignement. Tous ces événements eurent lieu alors que les combattants de l'Organisation pour la libération de la Palestine, OLP, étaient entrés obligatoirement dans le territoire libanais. D'autant plus que lors des événements du Septembre Noir, des milliers de Palestiniens avaient été assassinés par le gouvernement jordanien et dans le cadre d'un plan israélien. Après une nouvelle étape de la résistance palestinienne se forma, qui avait transformé son centre de gravité de la Jordanie vers le Liban. Mais avec l'augmentation du nombre de Palestiniens au sud du Liban, les raids aériens israéliens contre cette région se multiplièrent. La persistance et l'intensité des frappes israéliennes contre le sud du Liban, qui allèrent jusqu'à l'intervention des chars et opérations terrestres, démontraient toute cette réalité que les Libanais étaient sous pression pour dissuader les Palestiniens de poursuivre la lutte. Israël cherchait à créer la rancune entre les habitants du sud du Liban et les Palestiniens.
À un moment donné, après la formation du mouvement Amal et l'éclatement d'une série de divergences, l'imam Moussa Sadr déclara au sujet du mouvement des déshérités: « Vous luttez pour trois choses. Premièrement, vous luttez contre les sionistes, ceux qui ont occupé le territoire des musulmans et profané la noble Rhodes. Secondo, vous luttez pour empêcher la répartition du Liban et Tertio pour vous protéger, car toute personne qui est agressée devra se défendre. Vous luttez pour ces choses-là, mais la priorité, c'est de combattre les sionistes usurpateurs. »
Les projets de Kissinger et d'Israël fonctionnaient très bien. Les racines de la guerre civile au Liban découlaient plutôt des divergences de vues des Libanais au sujet de l'usage par les combattants palestiniens du territoire libanais pour mener des opérations militaires contre les objectifs israéliens. Ce problème se compliquait de jour en jour et atteignit son paroxysme en avril 1973, date à laquelle des affrontements armés éclatèrent entre l'armée libanaise et forces de résistance palestiniennes. En dépit de la suprématie des forces de l'armée libanaise, des heurts se poursuivaient 14 jours. Lors de cette opération, l'armée fit usage des hélicoptères et des chasseurs bombardiers. Plus de 400 Palestiniens furent tués. Des opérations militaires se déclenchèrent à travers tout le Liban et des armes lourdes furent abondamment utilisées.